VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Conakry, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Selon l'ONG Global Witness, des entreprises forestières internationales ont versé plusieurs millions d'euros à des groupes rebelles en Centrafrique pour pouvoir exporter illégalement du bois vers l'Europe. Bagasikoura.
Dans ce rapport intitulé « Bois de sang », l'ONG Global Witness assure que des exploitants forestiers ont versé de l'argent aux rebelles Seleka ou Anti-Balaka qui contrôlaient des pans entiers de la Centrafrique. L'ONG met en cause trois groupes forestiers, l'un français, l'autre chinois et le dernier libanais. Global Witness appelle les États membres de l'Union européenne à rompre les liens commerciaux et l'aide au secteur forestier de la RCA qui peine à retrouver la paix. Mais Christian Farjo, conseiller auprès de la ministre des Forêts, affirme que tout est en cours de normalisation car les camions de bois sont maintenant escortés par la MINUSCA, la force des Nations Unies, en Centrafrique.
En RDC voisine, augmentation des violations des droits humains à l'approche des élections. Un constat fait par l'ONU, Eddie Sango.
Toutes les régions du pays sont concernées, a révélé hier les directeurs du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. José Maria Aranaz, les Nations Unies parlent entre autres d'une nette augmentation du nombre des restrictions aux libertés fondamentales par des agents de l'État, dont le respect est essentiel à la tenue d'élections crédibles. Monsieur Aranaz a toutefois fait part de la détente dans les relations avec les gouvernements congolais qui avaient expulsé son prédécesseur, Scott Campbell, après la publication des rapports dénonçant des bavures policières ayant coûté la vie à des dizaines de personnes du 19 au 21 janvier lors des manifestations de protestation contre une tentative de modifier la loi électorale.
RDC toujours, en visite à Washington, la conseillère spéciale du président Joseph Kabila en matière de lutte contre les violences sexuelles s'est adressée à l'Institut de la paix des États-Unis. Janine Mabunda-Lyoko y a évoqué les progrès dans la lutte contre les violences sexuelles à l'endroit des femmes et jeunes filles et les efforts de réintégration des enfants soldats dans son pays. Un message qu'elle a repris au département d'État en soulevant la possibilité d'une réintégration de la RDC au sein de l'AGOA, la loi américaine sur les opportunités de croissance en Afrique. On écoute Madame Mabunda Lyoko au micro de Camille Gros-Didier.
Je reste très attentive au dialogue que nous aurons comme nation avec les États-Unis sur la question de l'AGOA, pour lequel nous n'avions plus été éligibles à cause des questions de violences sexuelles et de recrutement forcé d'enfants. J'espère que la mission que je mène va peut-être un jour, et plutôt dans un jour proche, je l'espère, convaincre les autorités américaines sur la question de l'AGOA. Parce que les femmes du Congo aujourd'hui ont besoin de capacitation économique, de pouvoir économique. Et ça, avec l'élargissement du traité AGOA au bénéfice de la RDC, ça pourrait être un plus.
C'est un plus dans quel sens?
Je donne un exemple. Il y a cette ONG de Ben Affleck qui a encadré en fait des femmes survivantes de viol pour des activités agricoles, notamment la production de cacao et de café, qu'ils utilisent aujourd'hui pour produire du chocolat qui est exporté aux États-Unis. Et ça, c'est un bel exemple de à quoi AGOA peut servir pour des femmes survivantes de viols qui se sont engagées dans l'economic empowerment. Donc voilà, le Congo, c'est pas qu'une histoire triste. Je le dis souvent, je peux pas faire cette mission et ce résultat que nous avons n'est pas isolé. Il s'intègre dans une politique de développement. Il y a un engagement très fort du président Kabila, il faut quand même le noter. C'est peut-être lié à son jeune âge, parce que quand on est d'une génération un peu moderne, on est plus sensible aux questions de l'égalité des genres, du positionnement de la femme, que si on a 65 ans ou 70 ans. Donc profitons de cette opportunité générationnelle-là pour capitaliser en tant que femme du Congo et pour raconter cette autre histoire du Congo.
Janine Mabunda-Lyoko, conseillère spéciale du président Joseph Kabila en matière de lutte contre les violences sexuelles en RDC. Burundi, l'Ouganda poursuit sa médiation dans la crise burundaise, toujours pas de percée dans les efforts pour rapprocher les positions de la présidence burundaise et celles de l'opposition qui boycotte les élections. Le président nigérian Muhammadu Buhari attendu dimanche aux États-Unis pour une visite de 4 jours. Des détails avec Jean-Roger Bion.
La guerre contre le terrorisme et la lutte contre la corruption seront au cœur de ces discussions lundi avec son homologue Barack Obama à Washington. Muhammadu Buhari a fait de la lutte contre Boko Haram, affilié au groupe État islamique, une priorité de son mandat. Depuis sa prise de fonction le 29 mai, plus de 600 personnes ont été tuées dans de multiples attaques au Nigeria. M. Buhari va aussi rencontrer le chef d'état-major interarmé, Martin Dempsey, et le secrétaire adjoint à la défense, Robert Work, pour discuter du renforcement de la coopération militaire.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Bénin, publication des résultats des élections municipales et locales après plus de 2 semaines de dépouillement. Les partis de l'opposition ont gardé leur fief traditionnel et le FCBE du président Boni Yayi est en recul. Un aperçu des résultats avec notre correspondant à Cotonou, Peggy Ludovic Dagba.
Dans l'arrondissement de Ouida 4, sont respectivement élus M. Atovi Serin et M. Atovi Bruno. Dans l'arrondissement de Paou, sont respectivement élus au titre de la liste AND, Atanon Clotaire Célestine. Toujours au titre de la liste AND, Madame Roumbedi Irène Chancerlène.
C'est là un extrait des résultats tels que proclamés par la Commission électorale nationale autonome qui, par la voix du coordonnateur au budget de l'institution, révélait les choix des populations de la 5e circonscription électorale regroupant Pau, Ouida, Alada, Tofo et j'en passe, situés dans le département de l'Atlantique au sud-ouest du Bénin. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Le président Barack Obama effectue dans quelques jours une tournée en Afrique où il se rendra au Kenya, dont le vice-président William Ruto est poursuivi par la Cour pénale internationale, mais plus le président Uhuru Kenyatta, et aussi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. La CPI est très critiquée par les leaders de l'Afrique qui l'accusent de ne juger que des Africains. Cette question sera-t-elle abordée pendant la tournée de Barack Obama? Un début de réponse avec David Zulmenoudosou de l'Institut d'études de sécurité à Pretoria en Afrique du Sud, au micro d'Idriss Fall.
Probablement, ce sujet va être abordé, d'autant que les poursuites contre M. Uhuru Kenyatta sont abandonnées pour le moment. Mais au-delà de ces sujets-là, je pense que la visite de Barack Obama servirait beaucoup plus à définir ou à donner son héritage en matière de relations entre les États-Unis et l'Afrique. Et à ce sujet-là, je pense que ce sont les initiatives qu'il a prises tout au long de son mandat à travers l'initiative des jeunes leaders de l'Afrique, la question de Power Africa, une initiative pour fournir l'énergie électrique au continent africain et bien d'autres sujets qui vont, à mon avis, figurer au top de son agenda. La question de la Cour pénale internationale, particulièrement en ce moment où l'Union africaine fait pied de nez à l'organisation, sera abordé, mais avec beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus de respect par un pays qui n'est ni membre de la CPI, ni signataire du traité de Rome.
Justement, quelle serait la crédibilité de Barack Obama à parler de la CPI?
Je pense que c'est déjà un argument utilisé par les chefs d'État, la question de crédibilité des États-Unis et d'autres puissances qui ne supportent pas l'institution. Ça sert quand même une arme dans les mains des chefs d'État africains qui considèrent en tout cas la CPI comme une institution créée pour poursuivre et exclusivement les chefs d'État africains. Donc, ce contentieux reste encore d'actualité, particulièrement avec tout ce qui s'est passé autour du président soudanais Omar al-Bashir lors du dernier sommet de l'Union africaine en Afrique du Sud. Et il ne serait pas bien séant que les États-Unis, les partenaires africains n'abordent pas ce sujet pour voir exactement quel est l'avenir réservé à l'institution qui, de toute évidence, doit exister pour parler au nom des victimes et rassurer en tout cas l'Afrique, les partenaires africains, l'Union africaine, les chefs d'État africains que la CPI n'est pas une juridiction taillée sur mesure ou sélective pour seulement juger les Africains. Donc je pense que ce sera intéressant d'engager la discussion sur cette question et de donner l'assurance des États-Unis sur l'existence et la continuité du travail que la CPI a commencé.
David Zulmenoudosou à Pretoria en Afrique du Sud. Les États-Unis ont soumis hier au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution qui entérine l'accord conclu à Vienne en Autriche mardi entre l'Iran et les grandes puissances. Claire Morin-Gibourg.
Ce texte valide l'accord de Vienne et remplace en fait les 7 résolutions adoptées depuis 2006 par l'ONU pour sanctionner l'Iran. Cette résolution prévoit une levée progressive et conditionnelle des sanctions économiques internationales imposées à l'Iran au fur et à mesure que Téhéran réduira sa capacité à fabriquer une bombe atomique. Elle maintient cependant un embargo sur les armes conventionnelles pendant 5 ans et une interdiction de tout commerce lié à des missiles balistiques ayant la capacité d'emporter des têtes nucléaires pendant 8 ans.
Et pour terminer, le sommet anti-pauvreté s'achève aujourd'hui à Addis Abeba en Éthiopie. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.